Tuer ce requin ne sera pas une chose facile. Le poisson n'est pas un poisson comme les autres. Ce requin est un mangeur d'hommes. S'il plante ses dents et qu'il referme ses mâchoires, vous êtes foutus.
Oh, arrêtez! Il suffit de lui mettre une balle dans la tête et c'est lui qui est foutu. Pas vrai?
Le requin-tigre que nous recherchons est un maniaque.
You're gonna need a bigger podcast.
Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requins tueurs. Je suis le professeur Rico, et alors que les souvenirs de la nuit Nanarland numéro 3 s'estompent à l'horizon, nous nous retrouvons pour nos dérives nautiques et continuer notre exploration de la Sharksploitation. Pour ce faire, nous allons continuer à explorer les capacités squalo-cinématographiques ou squalographiques de films dont nous allons pointer l'ambiance, l'originalité, les personnages, l'histoire, la qualité des requins et la réalisation, de manière à les classer dans une des cinq catégories suivantes, à fuir pour les plus mauvais, nul, routinier, bon et, beaucoup plus rarement, incontournable. Avant d'aborder les deux films du jour, un petit rectificatif concernant Shark Hunter que nous avons traité la dernière fois. Un auditeur du podcast, le Giorgio, m'a contacté sur Twitter pour me dire que, contrairement à ce que j'avais annoncé, il existe bien une version française de ce film, et même un DVD, mais renommé Mégalodon. Problème, quand j'avais fait quelques recherches pour pouvoir trouver une trace d'un DVD français de ce film, j'avais bien vu ce DVD, ainsi qu'une édition avec Malibu Shark Attack et Dark Water de Philip Roth, mais à chaque fois, sur Amazon, le Mégalodon en question n'était pas le film de Matt Codd, mais Shark Attack 3 de David Lister, un film encore avec un mégalodon. Comme j'avais déjà ces trois films, j'ai pas jugé bon de prendre le coffret pour avoir un acquis de conscience, surtout vu son prix, et la qualité des films dedans, me privant d'une version française de ce film. Les joies du retitrage par les éditeurs VHS et DVD. Je vous adore les gars, continuez, changez rien. En tout cas, merci Giorgio, tu es un peu notre chef Brody, toujours en alerte, les jumelles à la main sur sa tour de guet anti-requin. Bon, alors, qu'avons-nous cette semaine dans notre escarcelle? Eh bien, pour commencer, une petite production The Asylum, youpi, Mega Shark vs Giant Octopus de Jack Perez en 2009, et, n'ayant absolument aucun rapport pour une fois, 47 Meters Down de Johannes Roberts, un film sorti non pas en cinéma comme j'avais annoncé initialement, mais en VOD, en 2017, et qui se veut d'une toute autre carrure que nos pochettes habituelles. Alors, prêt à jeter à l'eau?
Il y a 10 millions d'années, ils ont été pris dans la glace en s'affrontant.
Cette blessure, elle n'a pas été faite par un bateau, mais par un animal.
Dis-moi ce qui, dans cet océan, serait capable de provoquer de tels dégâts.
Ce qui se passe est grave.
Ils sont de retour.
Je sais comment on va faire. Il suffit de les faire s'entretuer.
J'ai vu ses yeux immenses.
Dites-moi davantage.
La cible se rapproche!
On menace d'une nouvelle forme.
Ladies and gentlemen, à ma droite, la pieuvre géante de 150 mètres, 1500 tonnes, de fureur tentaculaire engloutissant les plateformes pétrolières comme qui rigole. À ma gauche, le Mega Shark, grand comme un porte-avions, dévorant à belles dents le Golden Gate et toute notion de vraisemblance dans la biologie marine. Ils sont là ce soir pour en découdre dans un match de titans, dans cette arène qui nous est offerte par la The Asylum Bullshit Entertainment.
Are you ready? Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
C'est marrant, je m'en rappelle de celui-là. Quand on l'avait chroniqué sur Nanarland, j'avais essayé de le voir, je m'étais endormi. Et là, pour préparer le podcast, j'ai revu. Et je crois que j'ai quand même pas mal somnolé encore. Et pourtant, sur le papier, ça devrait me plaire, parce que en dehors des films de requins, et de James Bond, et de Batman, je suis un grand fan des films de monstres géants, particulièrement du Kaiju Ega. Les Godzilla, les Gamera, les King Kong et toutes ces grosses bestioles surdimensionnées qui se castagnent en milieu urbain. J'adorerais faire un jour un podcast sur ce sujet, mais bon, les journées font que 24 heures et je dois mener la jeunesse de France vers le baccalauréat pour gagner ma croûte. Donc, on verra ça plus tard. Enfin, Megashark vs Giant Octopus aurait dû titiller en moi la fibre du fanboy de ce genre de produit. Mais ça aurait été oublié un peu vite qu'on est là avec un film estampillé Asylum, et Asylum de 2009, l'âge des ténèbres. Ils sont pas encore arrivés à leur vitesse de croisière en matière de portnawakisme assumé. En clair, on a le droit à des longs tunnels de palabres stériles avant une scène choc vite torchée à coups de shaky cam et d'images numériques mal faites et approximatives. C'est pas glorieux tout ça. Megashark vs Giant Octopus nous narre donc, vaille que vaille, l'affrontement des deux prédateurs emprisonnés dans la glace depuis la préhistoire et libérés par accident lors d'expérimentations militaires foireuses. Suite aux ravages créés par les deux monstres, les États-Unis et le Japon s'associent pour former une équipe de scientifiques ringards, épaulés par un militaire fort en gueule, de manière à trouver le moyen de les vaincre. Et pourquoi pas en utilisant des phéromones qui vont permettre de les lancer l'un sur l'autre pour un combat final que l'on devine grandiose et titanesque.
Alors ce n'était pas mon imagination.
C'est bien un requin, un mégalodon. Il n'est pas tout seul.
Ça ressemble à votre dessin.
C'est peut-être
un calmar géant.
Non, une pieuvre.
C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Même au regard des standards de qualité médiocres de chez The Asylum. Comme je vous l'ai dit plus tôt, on est encore en 2009, et la firme de Burbank n'a pas encore finalisé sa technique de création de série Z volontairement nulle, mais suffisamment frénétique pour capter l'attention. Il se passe rien. Une petite attaque, torchée en 30 secondes, avec gros plans flous, caméra qui tremble, puis ensuite 15 minutes de dialogue sans intérêt entre les scientifiques. Le tout dans une laideur ambiante qui n'aide vraiment pas à rentrer dans le film. Non, parce que les images de synthèse moches, on est habitué, hein. Mais là, Jack Perez, le réalisateur, ne peut s'empêcher de noyer ses images sous des filtres baveux. Des couchers de soleil orange qui sont en fait des filtres générés par ordinateur. Des laboratoires éclairés par des néons de toutes les couleurs. Le tout avec une image qui est un grain vidéo de soap opéra vraiment pas flatteuse. Faut dire que quand il faut mettre en valeur des décors qui semblent être made in la foire fouille, faut se débrouiller avec ce qu'on a. D'ailleurs, tiens un truc au passage. Vous avez un seul décor avec trois appareils. Vous voulez faire plein de salles de contrôle différentes, et vous avez qu'à varier les images et varier les filtres. Pas de souci, vous changez la couleur des néons qui bavent sur la pièce. Vous faites tout en rouge quand c'est le sous-marin américain, et puis quand c'est le sous-marin japonais, tout en jaune. Non, c'est un hasard. Pour le reste, ça le fait, vous allez pas chipoter. Il y a une pieuvre géante, un gros requin qui se fout sur la tronche, ça devrait vous suffire, non? Pour tout médiocre qu'il soit, ce film a quand même été celui qui, avec Transmorpher, le Transformer version Emmaüs, a mis The Asylum sur les radars des cinéphiles du monde entier. Enfin, sur les radars des gens qui regardent des trucs qui bougent sur un écran, du monde entier. Ils étaient restés quasiment inconnus jusqu'à la fin des années 2000, malgré déjà une bonne vingtaine de films au compteur. Jusqu'à ce que le trailer de Megashark buzz à mort sur Internet, grâce à une scène choc de dingue. Un requin qui chope un avion de ligne, en plein vol.
Asseyez-vous, c'est juste un trou d'air, merci.
Oui, je me marie après-demain.
Tout ira bien.
Nous traversons une zone de turbulence, attachez-vous à nous.
Oh putain!
La hype est lancée à tel point qu'il y aura pas moins de 3 suites à ce qui sera la première série poule aux œufs d'or de The Asylum, avant les Sharknado. Megashark vs Crocosaurus en 2010, Megashark vs Mechashark en 2014, et Megashark vs Colossus en 2015. Pour l'instant, ils sont arrêtés là, mais on sait jamais avec eux. Bon, je vous la fais vite sur Jack Perez, le réalisateur, qui s'initie le film sous le nom de Hayes Anna, et qui n'a qu'une petite carrière à la télé dans des émissions du style vidéo gag, ou dans des séries Z fauchées style Monster Island, Drone Noir ou Sex Crime numéro 2. Même The Asylum l'emploie pas beaucoup, c'est dire le peu de confiance qu'il doit avoir dans le tâcheron. Pareil pour la musique de Chris Radenauer, le compositeur attitré de chez The Asylum. C'est la soupe prédigérée pseudo-symphonique d'usage qu'on retrouve grâce à tous les logiciels spécialisés qui vous offrent un orchestre symphonique sur votre ordinateur. Non, je vais pas la faire longue sur ce film, mais je vais m'arrêter un peu sur le casting. Il y a des signes qui permettent de savoir que votre production commence à sentir sérieusement le faisandé, et l'un d'entre eux, c'est quand le meilleur acteur de votre équipe n'est autre que Lorenzo Lamas. Ouais, le rebelle. À dire vrai, c'est même le seul rayon de soleil du film, parce que j'imagine très bien ce qui s'est passé quand il s'est pointé sur le plateau et qu'on lui a dit Lorenzo, ton perso, c'est un militaire fort en gueule qui envoie bouler tout le monde. Je peux forcer un peu le trait là, parce que j'ai vu le script, j'ai pas une seule scène d'action, je reste derrière un bureau quasi tout le film. Mais fais-toi plaisir, mon Lolo. De toute façon, c'est pas les autres acteurs qui vont te faire concurrence, hein. C'est bon alors, j'y vais.
Qu'est-ce que vous attendez de nous, au juste ?
Une solution au problème. Si on ne trouve pas un moyen d'arrêter cette saloperie de monstre, alors il va contrôler les mers. Si on contrôle les mers, on est à deux doigts de s'offrir la planète. Ça, les bronzés l'ont bien compris. Quoi ? C'est pas du racisme, je l'ai tous.
Bon, n'insistons pas outre mesure, voyons ensemble les compétences squalo-cinématographiques de Mega Shark versus Giant Octopus. Originalité, insuffisamment acquis. Bon, on va faire un gros combat de monstres, hein, le tout en CGI dégueu, ça suffira largement. C'est pas le premier dans le genre et ça sera sûrement pas le dernier. Histoire non acquis. Il y a des scientifiques qui cherchent à choper les deux monstres, qui palabrent, qui trouvent un moyen de choper les deux monstres, qui foutent les deux monstres ensemble, et les deux monstres se tapent. Waouh. Personnage insuffisamment acquis. Allez, je mets quand même un point donc pour Lorenzo Lamas et zéro pour tous les autres qui sont à Lamas. Ouais, je sais, j'ai honte. Réalisation non acquis. L'image est moche, les CGI sont moches, le rythme est inexistant. Ce qui me sidère, c'est que j'ai vu parfois Jack Perez crédité comme professeur du cinéma sur IMDb. Ça doit être un homonyme, c'est pas possible. Ambiance non acquis. J'ai bien dormi. Non, sans blague. Je vois ce film deux fois, et deux fois, je m'endors. Requin. Épieuvre au passage. Insuffisamment acquis. Or déjà que les images sont pas glorieuses, en plus, il y a tout un tas de faux raccords, que ce soit de taille ou de position des bestioles. Bref, c'est ni fait, ni à faire. Mais vous l'avez fait quand même, parce que The Asylum. Alors ça nous fait du 3, plus un demi-point pour la scène de l'avion chopé au vol. Voilà, encore un film à fuir. Bah, avec The Asylum, hein, fallait s'en douter. Ce qui semble nous montrer qu'avec un petit peu de marketing viral et de buzz sur internet, on peut se passer de talent. Ouais, je suis pas impatient de voir les suites. En fait si, je les ai déjà vues, et donc je suis pas impatient de les revoir pour le préparer pour le podcast. J'espère que je vais pas tomber dessus. Bon, allez, on va quand même voir quelque chose d'un petit peu plus affriolant, avec 47 Meters Down, il a plutôt bonne réputation. Allez, on rentre dans la cage.
Merci beaucoup de m'avoir emmené en vacances. L'être les plus belles depuis des lustres.
Il semble qu'il faut essayer.
Je sais pas plonger avec des bouteilles.
T'as rien à craindre.
Ok. Ouais.
Ah, c'est comme si t'étais aux eaux, sauf que c'est toi qui es dans la cage.
Je sais pas.
Bienvenue à bord. Sous l'eau, tu voudras pas remonter.
Oh, c'est dingue. C'est beau à couper le souffle.
Oh, t'as vu ça?
Ah, c'est le plus gros requin du monde. Tu peux me prendre en photo?
Désolé.
On va remonter tout de suite.
On va vous remonter.
Oh, c'est pas vrai!
On ne vous le répétera jamais assez, arrêtez de négliger la sécurité en pratiquant la plongée sous-marine. Passez par des professionnels sérieux avec du matériel aux normes CE et des brevets de moniteurs en règle. Non, parce qu'effectivement, si vous passez par le premier branquignol venu vous proposant une sortie en mer pour observer les requins avec un bateau hors d'âge, une cage rouillée tractée par un treuil en papier crépon, bah vous allez avoir de mauvaises surprises. Ah bah oui, ils sont pas chers. Mais on en a pour son argent. Or, venez pas vous plaindre si en plein milieu de la plongée, les câbles pètent et que vous vous retrouvez coincé dans une cage, entouré par les requins, à 47 mètres de fond. C'est l'argument hautement pédagogique de ce 37 Meters Down, où deux sœurs, jouées par Mandy Moore et Claire Holm, décident de parachever leurs vacances au Mexique en s'offrant une sortie en mer, dans une cage, au milieu des squales. Mais comme elles embarquent avec une bande de bras cassés qui sentent plus la tequila que le professionnalisme, eh ben ça tourne au drame.
Maintenant, on va parler au capitaine. Okay. On revient dans une seconde. Attendez là.
Sans blague, je me sens vraiment mal à l'aise.
C'est bon, ça va bien se passer.
Et d'abord, est-ce que c'est sûr leur truc? On les connaît à peine, ces types. Tu sais ce que le concierge a dit, qu'il fallait prendre les activités et les tours de l'hôtel,
qu'on risquait de se faire arnaquer. Ne dira pas le contraire.
J'ai déjà entendu des histoires horribles de touristes qui sont sortis en mer, et ça a mal fini. Stuart a dit qu'une
Stuart est un pauvre type. On va bien s'amuser. Allez, viens.
Venez par ici. Soyez pas timide.
D'accord.
Ça a été le petit succès surprise de l'année dernière. Empochant 60 millions de dollars de recettes pour 5 millions de dollars de budget. à tel point que ce film initialement prévu pour la vidéo a quand même eu le droit à sa sortie en salle aux États-Unis. Hélas, pas chez nous, malgré une diffusion au festival de Deauville. C'était e-cinéma direct. Rien de plus. Qu'est-ce que vous voulez? Fallait laisser de la place pour à bras ouverts ou épouse-moi mon pote, hein, on peut pas tout avoir. Je ne l'avais pas vu à l'époque, j'ai rattrapé mon retard et bien m'en a pris. D'autant que ce film fait partie de la petite catégorie de films de requins que je peux voir avec ma femme. Oui, parce que je dois bien avouer qu'elle est beaucoup plus classique que moi en matière de cinéma, et quand je me pointe avec un DVD dans la main et un grand sourire aux lèvres, disant « Chérie, on se fait une petite soirée cinéma », sa première réaction est généralement de me dire « Tu vas pas encore m'infliger une de tes saloperies avec un requin, hein ?» Et moi de rengainer mon DVD The Asylum, et elle de rengainer les papiers du divorce, c'est déjà ça. Enfin, tout ça pour vous dire qu'on a là un petit film de requin qu'on peut montrer sans avoir honte. Aux commandes, Johannes Roberts, un petit réalisateur britannique qui s'est fait connaître dans le film d'horreur à petit budget, mais gentiment arty, avant de rafler la mise avec ce 47 Meters Down. A tel point d'ailleurs qu'ils sont en train de préparer la suite, 47 Meters Down Next Chapter, un temps d'ailleurs intitulé 48 Meters Down par des producteurs inconscients du ridicule. Ça devrait sortir en 2019, et au vu des résumés pour l'instant, bah ils sont pas trop foulés, c'est encore des gens qui se retrouvent coincés dans une cage, au fond de la mer, avec des requins. On en reparlera quand il sortira. Le film, lui, s'inscrit dans la vague initiée par Open Waters ou The Reef, qui consiste à essayer de traiter sérieusement le requin, et en se concentrant sans second degré inutile sur l'angoisse d'être perdu seul dans l'océan face au squale. Ce qui donne une vraie efficacité et une intensité au film.
Oh, j'arrive pas à croire qu'il est aussi près de nous. T'es pas capable de le toucher. Ça va pas la tête ?
Et il faut bien avouer que l'un des points forts du film, c'est son ambiance. Il nous plonge, après un petit quart d'heure d'exposition, dans la cage en perdition, et exploite à fond son concept claustrophobique en collant au maximum au protagoniste, isolé au fond de l'eau, perdu dans l'immensité bleue. Une ambiance renforcée par le sound design et par une excellente musique, très viscérale, très étouffante, signée Tom and Andy, un groupe électro-texan composé d'Andy Milburn et de Thomas Adjou, qui renforce le caractère oppressant en privilégiant le ressenti sur la mélodie. Après, le film n'est pas exempt de quelques défauts, notamment un twist final un peu téléphoné à mon goût, mais aussi une gestion très aléatoire de la plongée sous-marine. Que ce soit la vitesse de consommation de l'air comprimé dans les bouteilles, les paliers de décompression, même le fait qu'on puisse communiquer sous l'eau par micro alors qu'aucun des protagonistes n'a le moindre appareillage d'écoute sur les oreilles. Après, c'est comme tout, si on chipote, on fait plus de films. Mais bon, si comme moi vous avez fait de la plongée par le passé, vous risquez de tiquer un peu. Mais bon, en dehors de ces petits détails, le film est bon. Il reste modeste dans ses ambitions. Les requins apparaissent de façon imprévisible, les personnages font un peu n'importe quoi, mais au vu de leur inexpérience en plongée et de l'affolement de se retrouver coincé au fond de l'eau dans une cage, ça paraît logique. Peu de sang, des jumpscares plutôt bien foutus, voilà un film hautement recommandable, qui veut vous offrir le petit frisson du samedi soir, et qui y arrive parfaitement.
Qu'est-ce qu'on fait ? T'entends ça ? Taylor ? Taylor ? Au secours ! On est là ! Taylor ! Taylor ! Tais-toi, tais-toi, silence, arrête ! On doit être hors de portée pour qu'ils nous entendent. Il faut essayer de rétablir le contact. Comment ? On les entend presque, c'est pas loin. On est un tout petit peu trop profond et peut-être que si je remonte un peu, juste un peu, alors on serait plus à portée et je dis que c'est bon, qu'on est vivante et ils se dépêchent de nous envoyer quelqu'un.
Ouais, tu fais comment avec les requins ? Ils ont déjà senti notre présence.
Je vais pas trop m'éloigner de la cage et on va s'en tirer.
Alors, faisons le point sur les capacités swallographiques de 47 Meters Down. Originalité, en cours d'acquisition. On surfe sur les mêmes eaux que Open Waters ou The Reef, mais on a 10 ans de retard. Et même si c'est bien fait, le fait de se retrouver isolé avec des requins qui vous tournent autour, ça a déjà été un petit peu vu. Histoire, suffisamment acquis. Alors, certains marcheront à fond sur le twist final, Moi, je l'ai vu venir, il a carrément fait décrocher ma femme. Personnage, en cours d'acquisition. Les acteurs sont bons, ça y a aucun problème. Mais leurs personnages sont quand même assez caricaturaux, et globalement superficiels. Ambiance, ah là c'est acquis. On est dedans. Le film réussit vraiment à créer son atmosphère, on est avec les actrices coincées dans la cage, et la musique renforce véritablement ce sentiment d'oppression qui vous tient. Réalisation, c'est acquis. Jonas Roberts sait ce qu'il fait avec sa caméra et compose des plans souvent magnifiques. Et il sait parfaitement tenir parti de son petit budget pour obtenir des effets maximum. Requins en cours d'acquisition, on les voit peu. C'est voulu, c'est une menace invisible. Mais les attaques font parfois un peu invraisemblables. Soit un total de 13, auquel je rajouterai personnellement un point. Pas plus, bah c'est la faute de ma femme. Moi j'ai marché. Mais bon, vous me mettez un requin et je marche de toute façon dans le film. Elle a été beaucoup plus circonspecte sur les effets faciles, sur le retournement final. Et donc, on n'ira pas au-delà de 14, qui est quand même un bon film. Mais c'est pas moi, c'est ma femme. Bon, c'est pas tout ça, il est temps de voir ce que nous allons tirer pour les prochains numéros. Alors, premier film, Sharktopus vs Pterracuda, 2014, Kevin O'Neill, une production Roger Corman. Pourquoi je me retrouve toujours à chroniquer ce genre de film, moi ? Ça doit être le karma, ça. J'ai dû faire vraiment des trucs dégueulasses dans une autre vie. Genre torturer des chatons ou voter socialiste. Enfin, faut bien s'y mettre. Non, mais ça va être mieux avec le deuxième film. Ah, Tank, 1996 de Prem Lalwani. Le dent de la mer indien. Ah, bah ça va nous faire voyager ce coup-ci. Alors, quelques recommandations au passage. Bas de requin, l'histoire de la Shark Exploitation vient de sortir. C'est un livre d'Alexis Prévost, Claude Gaillard et Fred Pizzoferrato, aux éditions Huggin et Munin. Un beau livre donc sur la Shark Exploitation, avec une superbe iconographie et un beau panorama de tous ces films que nous avons vus ensemble. Un petit coup de pouce aussi à un beau projet, Ninja Shark Buster in Paris. Comme son nom l'indique, un projet de film avec des requins et des ninjas, le tout orchestré par Marteau Film Productions, qui sont aussi derrière The Video, qui nous ont sorti la version française de The Amazing Bulk, Bulk l'Invincible, et qui sont très actifs dans la promotion du petit film Z et Rigolard. Vous l'avez peut-être remarqué aussi, nous avons pour cet épisode un nouveau logo. Je remercie Creepers, de VHS et Canapé, et Punky, pour cette belle réalisation que je ne suis hélas pas totalement sûr de garder pour les prochains épisodes. Vous pourrez peut-être donner votre avis sur Twitter à ce sujet, @TheUltimateRico. Les podcasts Nanarland ne devraient plus tarder à reprendre sur le label Riviera Ferraille, nous nous y retrouverons. Et le site Nanarland lui-même continue à être toujours actif. En attendant, je vous dis à dans 15 jours, vous pouvez retourner vous baigner.